Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Bah, Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui ne m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler mode, textile, mieux encore, mode et textile durable, ceci avec les nouvelles grisettes, à la fois ateliers de confection et magasins. Pour nous en parler, un des piliers de l'association, Fanny Linière. Merci à vous d'avoir répondu à ma proposition. Fanny Linière, votre parcours montre la confluence de compétences qui a donné naissance aux nouvelles grisettes. Vous êtes la présidente de l'association. Vous êtes diplômée de l'Université Paul-Larry en management de projets de développement. J'ai raccourci. Vous êtes intervenue dans plusieurs structures de l'économie sociale et solidaire. Depuis plus de 12 ans, vous travaillez en indépendante en proposant des prestations de conseil et de formation. Comme vous le savez, voyons maintenant comment vous allez nous raconter votre Montpellier. Et donc, première question, quels sont les lieux à Montpellier qui figurent ou pas sur les cartes postales que vous aimez particulièrement, auxquels vous êtes attachés, vos lieux montpelliérains favoris?
En tout cas, merci pour votre invitation. Et effectivement, y a des lieux comme le Pérou, qui est un endroit qui est quand même assez, je trouve, intéressant avec les perspectives qu'elle donne justement sur l'arrière-pays et l'envergure qu'a Montpellier. Il y a le mythique La Comédie, hein, qui est quand même connue particulièrement par les gens qui ne sont pas de Montpellier, par exemple. Ouais.
Et alors, d'une manière plus générale, qu'est-ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez peut-être pas à Montpellier, sur lequel vous êtes moins enthousiaste, moins... je dirais patriotique par rapport à Montpellier.
Je vous avouerai que je n'en vois pas là, comme ça.
Voilà, on va le prendre par une autre manière. Oui, quand vous avez des amis ou des parents de passage qui ne connaissent pas Montpellier, qu'est-ce que vous dites de Montpellier? Qu'est-ce que vous leur conseillez?
Je parle d'une ville cosmopolite, avec une ville d'échange, avec une ville de partage, une ville très ouverte. On est une ville ensoleillée, en fait, on est beaucoup en extérieur. Et c'est propice aux rencontres. Et effectivement, on s'aperçoit que tous les projets auxquels on peut être témoin, enfin, sont des projets d'ouverture, de rencontres. Ouais, je trouve que...
Oui, donc il y a un climat, un terreau,
ou
un microclimat favorable.
Oui, je trouve, je trouve.
Donc, vous voyez que vous parlez de Montpellier.
Ah oui, mais je peux parler de Montpellier. Voilà. Mais bon, vous m'avez parlé de parler de ce que je n'aimais pas. Donc là, c'était plus compliqué. Mais effectivement, Montpellier est un lieu de rencontre où on a à la fois... Des étudiants qui viennent d'horizons très différents d'ailleurs. Et on a des nouveaux arrivants, des nouveaux travailleurs qui arrivent vers chez nous. Et c'est très très enrichissant. Moi, je rencontre de nombreuses personnes qui viennent de régions différentes,
d'horizons différents, de cultures différentes,
même de métiers différents. Et en fait, c'est extraordinaire pour pouvoir justement s'ouvrir à d'autres façons de voir la vie. Et Montpellier est très, très
propice
à ça. Ouais.
Eh bien, on va essayer de voir comment une autre façon de voir la mode. Allons maintenant donc du côté de Pérol pour découvrir, ou peut-être découvrir parmi nos auditeurs et auditrices, les nouvelles grisettes. D'abord, votre nom, les nouvelles grisettes. Alors, pour éviter aux auditeurs et auditrices d'aller chercher dans Wikipédia, quel est le rapport avec les grisettes du 19e siècle? Quel est le clin d'œil? Pour le coup, historique.
Hein, historique. Alors, le clin d'œil historique, déjà, il y a l'histoire des nouvelles grisettes.
On va en parler, bien sûr.
Ah, on en parlera, mais il a fallu, à un moment donné, nous donner un nom. Et ce nom émanait de ce que nous étions devenus. Et nous étions autour de la couture. Nous étions réunis pour réagir à la pénurie de masques. Et donc, nous étions surtout un groupement de couturières. Alors je dis nous parce que moi je me suis retrouvée
qui
aussi.
Était, qui était né comme ça par relation spontanément, par qu'il y a eu bon,
ben,
le petit déclic de la rencontre.
Je crois qu'on a encore en mémoire, même très de matière très viscérale, hein, ce que nous avons vécu et ressenti pendant le confinement, ce côté sidérant. Vous évoquiez tout à l'heure, et je vous en remercie, le parcours professionnel que j'ai. Effectivement, je me suis sentie moi personnellement très profondément inutile avec mon conseil et ma formation.
Hors jeu en quelque sorte.
Hors jeu, en sachant que des personnes nourrissaient et soignaient des gens à un moment où on ne savait pas trop ce qui nous arrivait avec ce Covid. Et là, Caroline Bouvier a lancé un appel en disant qu'il manquait des masques et qu'il fallait coudre. Et moi, je me suis dit, bah oui, au moins que je serve à quelque
Caroline
chose.
Caroline Bouvier qui avait déjà une activité, je dirais,
oui, mais c'est
dans la mode depuis une dizaine, au moins 10 ou 15 ans et qui partageait ce constat avec vous là, d'inutilité alors qu'il y avait des besoins à côté.
Oui, en tout cas, non, je ne me permets pas de dire que j'avais constaté, c'est qu'elle a lancé une perche que j'ai su saisir, comme bien d'autres, parce qu'on est arrivé à plus d'une centaine, en fait, à répondre à l'appel. Caroline Bouvier, qui avait sa maison de couture, s'est retrouvée à recevoir des témoignages de corps médical, complètement désespérés, des gens vraiment dans un état émotionnel fort. Et donc, Caroline a eu à gérer ça. Et en réponse, elle s'est dit, moi, je dois pouvoir bouger. Et il faut savoir quand même que ce qui s'est enchaîné derrière Caroline, ça a été une mobilisation, une générosité extraordinaire, certes en temps. Alors bon, moi j'avais que ça à faire, à coudre. Hein. Mais les couturières de métier, elles avaient du tissu. Et en fait, toutes ces couturières de métier ont fourni leur propre stock de tissu à l'époque.
Il y a une espèce de solidarité professionnelle, ouais, pour immédiate, ouais, qui a été le facteur déclencheur, je dirais, de l'aventure Nouvelle Grisette.
En fait, il y a eu un élan de ne pas être résigné et de vouloir sentir qu'on fait quelque chose, qu'on agit dans une situation où on était tous confinés, donc coincés. Et donc, on s'est retrouvés, en fait, au final, avec un collectif. Alors, au début, du WhatsApp, hein, bien sûr. Et donc, on s'est beaucoup soutenus. On s'est envoyé des photos d'humour pour se soutenir. Il y a eu beaucoup de soutien, en fait, humain, au travers la création de ces masques, la satisfaction de pouvoir préserver des travailleurs qui étaient obligés de travailler démunis de masques. Et donc, on était très fiers de pouvoir les protéger. Et en fait, on s'est retrouvés avec cet élan-là. Et donc au final, pour revenir à votre question sur les grisettes, c'est que quand on est sorti du confinement, qu'on s'est retrouvé avec ce collectif-là, qui faisait écho à ce que Caroline Bouvier avait déjà identifié, à savoir parmi les prestataires de couture auxquels elle fait appel dans son travail au quotidien, elle avait bien identifié qu'il y avait un besoin de groupement, de collectif, de mutualisation des moyens pour consolider ces métiers-là. Et en fait, cette énergie qui est sortie avec cette dynamique de création de masques, on en a saisi finalement pour aller jusqu'au bout de cette idée.
En mettant fin à un certain isolement, du coup, et puis autre constat, c'est que dans cette affaire, le Covid, la pandémie a eu un effet positif.
Alors, effet positif, en tout cas,
sans pandémie, Ce déclic originel, bon, il faut qu'on est isolé, on a besoin de se parler, d'exercer une solidarité effective, hein, ne se serait pas produit. Ou alors se serait produit plus tard ou dans d'autres conditions. Quoi. Donc il y a quelque chose, il y a une espèce de petit miracle qui est le contre-pied des souffrances que la pandémie a engendrées.
En tout cas, c'est tant qu'on est acculé, en fait, dans cette situation-là, que ça réveille effectivement des élans. Et là, ça a été un élan de solidarité énorme. Et donc, on s'est retrouvé avec une centaine de personnes investies, impliquées autour de Caroline Bouvier. Et effectivement, c'est là-dessus que ça a donné la possibilité à ce qu'elle pressentait comme besoin pour ses couturières de métier, de pouvoir donner vie à ce qu'elle avait en tête. Donc, il y a eu 4 fondateurs. Hein, donc, elle a associé 3 autres personnes à ses côtés.
Il faut les citer parce que
c'est ceux
qui ont installé le socle sur lequel Nouvelle Grisette s'est installée.
Exactement, donc j'allais m'y employer. Donc il y a Caroline Bouvier qui a associé donc Richard Préau, Roger Yannick Chartier et Muriel Fournier.
C'est quoi leur profil, hein, vos 3 autres là?
Alors on a Richard Préau qui est quand même maison de couture, donc on se retrouve avec 2 experts maison de couture. Hein. Et on a Muriel Fournier qui est entrepreneur, hein, qui aujourd'hui a une entreprise de nettoyage qui est entreprise à mission, donc elle a un label. Et on a Roger Yannick Chartier qui est lui-même entrepreneur dans l'immobilier. Donc on s'est retrouvés en fait avec, si vous voulez... tout un potentiel, une énergie humaine et des convictions dans ces quatre personnes qui ont permis de lever des choses énormes, parce que des gens qui ont cousu des masques en France, il y en a
oui,
eu partout,
bien sûr,
hein, d'accord,
bien sûr.
Mais pour devenir ce que nous sommes devenus, les nouvelles grisettes, je suis pas sûre qu'il y en ait eu partout. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu effectivement cette dynamique de solidarité, donc cette fondation, et derrière quatre fondateurs voilà. qui ont pu lever des réseaux, des contacts, des mises en relation, une énergie énorme qui a fait qu'aujourd'hui, on est les nouvelles grisettes. Et on a choisi...
Oui, pour reprendre le mot de mon introduction, la confluence, je veux dire, d'expériences, de compétences et d'énergies différentes et qui ont produit les nouvelles grisettes dont nous allons parler maintenant. Alors, il y a une première étape, bon, qu'on l'a dit un peu informelle, puis la création de l'association,
ouais.
Qui a été bon, le départ de la structure actuelle.
Ouais.
Qu'est-ce que ça recouvre aujourd'hui, les nouvelles grisettes? Quelles sont vos activités? On va les présenter à grands traits, puis on les reverra dans le détail.
Oui. Alors, on a quand même, quand on a réussi à faire émerger ces besoins et ces projets, on a eu un accueil favorable, on va dire, des responsables politiques qui, eux, attendaient, effectivement, étaient en attente d'une dynamique locale, étaient en attente également d'une valorisation des savoir-faire, étaient en attente d'une dynamique économique et cet élan de solidarité. Donc, on a eu un très, très bon accueil et un énorme soutien de la part des principaux responsables politiques.
Donc, Carole Delga,
Carole Delga en a fait partie, mais également la métropole, voilà. La ville de Montpellier, l'étang de l'Or également, parce que dans un premier temps, au sortir de ce confinement, quand tous ont été répartis en télétravail forcé, on s'est retrouvés en fait dans des locaux qui nous ont été mis à disposition à Pérol, je crois que c'était dans les locaux de la métropole, de la communauté de communes. Donc là, effectivement, a commencé l'effet, entre guillemets,
qui se sont pensés sur le berceau.
Structuration. C'est-à-dire que là, on est passé de l'élan humain, un peu association de faits, à structuration. Et dans structuration, c'est projet associatif. Et qu'est-ce qu'on a voulu formaliser dans ce projet? Un projet, effectivement, qui avait un ancrage au territoire, ne serait-ce que par la réponse aux besoins qu'on a portés. D'où le bon accueil des responsables politiques, d'où le bon accueil également des réseaux des couturières. Parce que les entreprises de couture, pour qui finalement nous étions animés. Hein, l'idée, c'était que nous souhaitions pouvoir poursuivre cette dynamique de production qui leur permette de pouvoir également développer leur activité économique. Donc, c'est ça qui nous a animés et c'est ce qui a été le cœur du projet associatif les Nouvelles Grisettes.
Cet objectif originel, il se perpétue, donc il reste, je dirais, l'apôtre maîtresse, je dirais, de la structuration des nouvelles grisettes.
Absolument. Et donc ensuite, le projet s'est avancé et on a eu la possibilité donc d'intégrer les locaux qui sont donc derrière le parc des expositions, qui est au niveau, je n'ai plus l'adresse exacte. Hein,
c'est 3800, avenue Georges-Frêche, 300 et quelques de
voilà,
mémoire.
Voilà, voilà. 3880, enfin voilà. Et qui, du coup, nous a permis d'avoir un espace extraordinaire avec une vitrine magnifique qui a pu être aménagée. Et donc,
donc à l'angle de l'avenue principale et de la voie qui conduit au parc Expo, c'est ça?
Oui, exactement. Voilà, vous l'expliquez très bien.
Voilà. Voilà, donc un bâtiment de niveau bien visible.
Oui, qui a effectivement une belle vitrine qui peut être vue depuis la rue.
Donc facile d'accès, parking à côté au passage.
Et parking accès des deux côtés.
On peut même y aller en tram.
Et en tram, effectivement, arrêt parc des Expos, ligne 3, direction Pérol.
Donc ça, bon, ces locaux, bon, j'imagine que ça a été décisif parce que ça vous a permis de vous installer dans de bonnes conditions et d'y prévoir vos différentes activités.
Oui, et ben, c'est là où effectivement tout ce potentiel nous a permis d'expérimenter le qu'est-ce que c'était les nouvelles grisettes aujourd'hui pour pouvoir le déployer. Donc jusqu'à cette année, en fait, on a expérimenté des tas de choses dans ces lieux. On avait donc l'espace, alors ce qui est quand même majeur, hein, notre cœur, c'est l'atelier. L'atelier, alors, avec des élans de donation financière, mais de donation également matérielle.
C'est-à-dire du matériel.
On a eu du mécénat d'équipement, du mécénat de compétences. On a eu vraiment une énergie extraordinaire qui a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Hein. Et des subventions, bien sûr, hein, sans lesquelles on n'aurait pas pu être là. Et qui nous a permis, en fait, d'expérimenter et d'explorer le modèle économique qui pourrait donner lieu à une association qui remplisse la mission qu'elle s'était...
Alors, dans cet atelier, qu'est-ce qu'on y fait, je dirais, quelles sont les différentes phases des techniques, hein, ouais, de confection qui sont mises en œuvre?
Donc, cet atelier... Et je vous invite à venir le voir, parce que c'est là où on voit effectivement le cœur qui bat. On a plus d'une dizaine de machines, alors, qui ont à peu près six fonctions différentes. Hein. Chaque machine a une spécialité que des couturières de métier seraient en mesure de vous expliquer. J'ai su, mais que j'ai oublié. Mais qui permet en fait à ces entrepreneurs de la couture de venir utiliser ces machines qui peuvent leur faire gagner du temps. Parce qu'imaginez, il y a une dizaine de machines, il y a peut-être à peu près 3 spécialités de machines. Personne, aucune entreprise de couture peut s'équiper, ne serait-ce que pour l'espace que ça demande, et également pour les prix que ça implique.
Voilà, d'où la mutualisation dont vous avez parlé. Quoi.
Parfaitement, la mutualisation de ces moyens. Il y a également la possibilité pour ces couturières et ces entreprises de couture de compléter leur niveau de chiffre d'affaires grâce à des commandes que les nouvelles grisettes arrivent à activer. Donc, elles peuvent venir, ces personnes, en fonction de leur disponibilité, et du coup, ça permet de rééquilibrer aussi leur modèle économique, et c'était ce qui chagrinait au départ Caroline Bouvier, de pouvoir maintenir et soutenir ces entreprises de couture, parce que ce sont des savoir-faire.
Et conditions économiques correctes,
hein, ouais,
y compris avec la capacité de répondre à plusieurs à une commande, ça peut prendre cette forme.
Mais vous avez tout à fait raison, vous avez bien intuité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec ces couturières de métier, si on a des commandes suffisantes, enfin conséquentes, on est en capacité de pouvoir y répondre. Voilà.
Et ces personnes, elles travaillent pour partie aux nouvelles grisettes et pour partie chez elles, comme elles le faisaient autrefois.
Ce sont des prestataires. Donc après, ben, comme tout entrepreneur, on est indépendant et on gère en fait son travail comme on le souhaite. Il y a peut-être des activités, des missions qui pourraient être confiées donc à ces personnes, qui peuvent être réalisées chez elles, auquel cas, bon, voilà. Mais il y a peut-être des missions qui leur sont demandées ou qui nécessitent l'utilisation d'une des machines. Donc la plupart, hein, de ce que j'en sais, et si Caroline Bouvier avait pu venir, elle l'aurait.
On va le dire aux auditeurs.
Oui.
Elle devait être à vos côtés. Elle a un petit souci de santé. C'est donc ça. Mais on va s'efforcer de bien répondre à l'attente des auditeurs,
oui,
tous les
essayer,
deux. Là.
Je vais essayer. Et effectivement, donc Caroline Bouvier, qui est donc responsable du pôle R&D au sein de l'atelier, pourrait vous dire effectivement qu'il y a certaines techniques qui sont importantes à utiliser et que la plupart de ces entreprises de couture viennent sur place à l'atelier, voilà, hein, en général. Dans cet atelier, j'évoquais justement Caroline Bouvier, si on fait de la R&D, c'est parce que...
R&D, recherche et développement, pour les non-spécialistes.
Mais c'est vrai, vous avez
raison. En gros, voilà, c'est comment on identifie les innovations et on s'efforce de les mettre en œuvre.
Voilà, exactement. Et en fait, comme on s'est retrouvés, alors ça a été un peu un effet d'attractivité. On a été un peu comme toute nouvelle entreprise, hein, surpris par des demandes, par des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. On s'était concentré d'abord sur notre atelier et on s'est retrouvé avec des nouveaux créateurs qui souhaitaient des nouvelles gammes. Et là, les professionnels du métier de la filière couture, Richard Préau et Carole Bouvier, était tout à fait à même de pouvoir répondre à ce genre de questionnement.
Oui, d'une part, ils connaissaient les problématiques ou les spécificités de cette activité-là, ou de ce volet-là,
voilà,
de la filière, pour orienter au mieux les nouvelles grisettes.
Parce qu'effectivement, créer une entreprise dans ce secteur-là est spécifique. Il y a des paramètres, des points de vigilance particuliers à ce monde-là dont il faut tenir compte. Et revenons à la R&D, il y a aussi des idées des fois qui sont, on va dire, pas suffisamment poussées pour qu'on arrive à les imaginer commercialisables. Et donc, le logiciel que gère du coup Caroline Bouvier permet en fait de faire des prototypages de patrons beaucoup plus facilement avec des projections très rapides. Et ça, c'est un équipement qu'on a eu effectivement la possibilité d'obtenir et qui est un atout majeur pour des nouveaux créateurs sur l'Occitanie.
Donc, si je comprends bien, ça réduit le temps entre l'idée et sa mise en œuvre effective, entre l'idée et la commercialisation du vêtement à l'arrivée. C'est ce volet-là qui est réduit avec le dispositif que les nouvelles grisettes ont mis en place.
C'est ça. Ça permet pour le créateur de voir finalement que son idée est faisable ou pas tout à fait faisable, que si sur les conseils de Richard Préault ou Caroline Bouvier, ben, il y a des tarifications de vente qui ne pourront pas être tenues par rapport à ce qui... Enfin voilà, de revenir, de réétudier les projets.
Alors ces créateurs, bon, on peut en dire un mot, qui ils sont, de quels horizons ils viennent, ils sont divers, ils ne sont pas tous montpelliérains, je le suppose.
Alors en tout cas,
ils beaucoup... profilent. Est-ce qu'ils sont leur profil, disons, pour voir un peu qui sont ces personnes?
Alors là, effectivement, Caroline aurait été parfaitement bien placée, puisque c'est elle qui les... Oui, c'est ça. Parce qu'elle a affaire à eux, c'est elle qui les accompagne individuellement, donc elle pourrait vous dire un peu tous les profils. Moi, ce que je peux vous en dire, c'est ce qu'elle m'en rapporte elle-même. Ça va être des créateurs qui sont surtout d'Occitanie, des personnes qui ont des formations... de couture à la base.
Mais beaucoup de jeunes, j'imagine.
Et oui, essentiellement de jeunes, et quoique, ça dépend ce qu'on qualifie de jeunes. De jeunes entrepreneurs, peut-être.
Voilà,
oui.
C'est ça.
Oui, tout à fait. En tout cas, des gens qui s'initient, et on se retrouve avec des projets plutôt innovants sur cette créativité-là. Après, dans cet atelier, on a aussi attiré des innovateurs, je vais appeler ça, qui essaient, par exemple, au travers de l'utilisation de notre atelier, donc des nouvelles grisettes, de mettre en place, par exemple, alors là, je vais dire un mot à la mode, l'upcycling, mais c'est la récupération de déchets textiles ou de bâches qui peut être cousue pour être remis en fait et reconsommé plutôt que de partir dans la pollution textile ou la pollution de déchets.
On a parlé la semaine dernière de réutilisation des bouteilles en verre.
Donc tout le monde sait ce que c'est que l'upcycling. C'est génial. Vous avez bien préparé le terrain alors. Et donc parmi les créateurs que rencontre Caroline Bouvier, il y a des créateurs qui disent moi j'ai envie de transformer des bâches publicitaires ou des bâches de camions. Donc on a Silibilis par exemple qui est un créateur qui est venu, et puis donc on a fait des tests, des essais, et aujourd'hui en fait il déploie énormément auprès des entreprises des idées de comment on peut récupérer leur propre production de bâches en fait. Voilà, donc ça aussi c'est un autre angle qui sort de la mode textile classique, mais qui est aussi on va dire la façon de contribuer nous aussi à la gestion de ces déchets en essayant d'innover et de voir comment on peut recycler en fait ces bâches.
Alors le temps file, il faut quand même qu'on explique ce qu'est le magasin.
Oui.
Alors, concept store, dites-vous, bon, c'est peut-être pour faire chic, mais pour aborder la chose d'une manière différente, quelle est la conception, qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui distingue le magasin par rapport à ceux que nous connaissons?
Tout à fait. Alors, parmi donc lorsqu'on s'est installé donc dans ces locaux, c'est là où du coup l'idée, vous voyez, c'est des rencontres et c'est des opportunités qui se présentent, qui fait que notre projet associatif, on l'a fait évoluer et on a expérimenté des choses. Et donc ce concept store était vraiment l'idée de mettre en lumière les savoir-faire du territoire occitan, des savoir-faire comme par exemple la botte gardiane, le savoir-faire comme tufferie, les savoir-faire
les jeans.
Voilà, les tufferies jeans. Donc, on a des grands noms qui portent justement l'idée de mettre en lumière qu'il y a des vrais savoir-faire en Occitanie, qu'il y a des... surtout pour... Si vous voulez, c'est pour inciter le fait que la délocalisation qui a été faite courant 20e siècle, on pourrait s'en mordre les doigts parce que finalement...
Oui, la délocalisation à l'étranger
de l'industrie
textile française qui est partie en Asie.
Exactement.
Exactement,
ailleurs. Ouais. Et que finalement, on sait faire. Donc, il y a une relocalisation, il y a beaucoup de choses qui se refont là. Il y a quand même un phénomène sociologique qui fait que les consommateurs et les gens sont de plus en plus sensibles.
Ça, vous l'avez perçu, vous, ouais. J'imagine que vous le perceviez au moment où les nouvelles grisettes étaient en gestation, mais cette mutation de la demande des consommateurs, elle est confirmée telle que vous la voyez.
Oui, alors, on va parler de certains types de consommateurs, parce qu'effectivement, toujours pareil, pourquoi c'est au niveau des catégories socioprofessionnelles qui ont les pouvoirs d'achat de pouvoir accéder à ces produits, puisque quand même, on est des produits de qualité. Donc, oui, ceux qui ont les moyens et le pouvoir d'achat, ils peuvent effectivement y accéder. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment proposer des prestations qui permettent à tous, puisqu'on est un tiers-lieu avant tout, et ce tiers-lieu, c'est ce qui est bien exprimé dans le grand magasin, c'est de pouvoir créer des lieux d'échange entre différents horizons, comme et à l'image et ce qu'on disait en début d'émission, Montpellier, c'est-à-dire faire des rencontres hétéroclites entre différents univers, comme les écoles, les universités, des créateurs, des entreprises. Et donc, notre tiers-lieu est vraiment l'idée de pouvoir créer ces interactions et de ces rencontres, créer des création. On a réussi, hein, on a réussi à faire se rencontrer par exemple une artiste avec Tufferi et ils ont mis au point une ligne de produits qui est née de leur rencontre et donc ils se sont rencontrés dans notre tiers-lieu par exemple.
Alors, il faut quand même qu'on aborde un point qui me paraît important pour bien expliquer ce que sont les nouvelles grisettes. Bon, vous revendiquez de l'appartenance à l'économie sociale et solidaire. Comment ça se traduit en quelques mots dans le fonctionnement et peut-être aussi dans les convictions que celles et ceux qui animent les nouvelles grisettes portent?
Alors, l'économie sociale et solidaire, hein,
c'est votre spécialité, alors vous devez...
Voilà. C'est un principe, en fait, déjà d'une dynamique collective et d'une motivation et d'une envie collective. Hein. Donc, c'est déjà souvent une entreprise collective. Une entreprise collective qui vise qui vise un projet qui mesure, on va dire, des impacts au niveau du territoire. Donc, on voit tout type d'associations. On a un projet social et ce projet social est animé par le fait d'améliorer une situation. Hein, on appelle souvent d'ailleurs de l'innovation sociale. Hein, l'économie sociale et solidaire est souvent source d'innovation sociale. L'économie sociale et solidaire, donc, se base sur une gouvernance démocratique. Où on a un système d'adhérents. Alors, ça a l'air anodin, mais n'empêche que dans tout type d'entreprise, on ne voit pas ce modèle-là. Le président, dont moi, donc la présidence, je suis la voix d'un mouvement collectif. Moi-même, donc, élu d'un conseil d'administration, lui-même élu d'une assemblée générale où il y a des adhérents. Donc ça, c'est un principe clé de démocratie en économie sociale et solidaire. Ça veut dire que je suis le porte-voix d'une volonté politique d'un mouvement. Et donc, on veut être absolument tiers-lieu avec cette maîtrise d'impact sur le territoire. Et en maîtrise d'impact, alors c'est quelque chose qui peut être concrètement exprimé de la chose suivante. On maîtrise un impact social dans le sens où on accueille chez nous des alternants, des stagiaires qui peuvent se former chez nous et se professionnaliser. On a ensuite l'impact écologique, puisque comme on vient de l'évoquer, on collecte des stocks, des fins de stock, des stocks dormants et on les recycle. D'accord. Des stocks de tissus et on recycle. Et on a également un impact économique dans le sens où on contribue au maintien économique des couturiers et des couturières et on crée également l'accompagnement de créateurs de nouvelles marques. Donc notre tiers-lieu, en fait, dans son rôle d'économie sociale et solidaire, apporte cette dynamique au territoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment un bon accueil de la part de la population d'ordre général. Et puis, on a effectivement la confiance des responsables politiques parce qu'on a besoin...
Alors, on sent bien qu'on pourrait prolonger cet échange. Alors, un mot toutefois... Pour les principales dates, vous organisez des événements. Quels sont les principaux rendez-vous que vous pouvez proposer à nos auditeurs
alors,
et auditrices.
Déjà, la première chose, puisque j'ai ce micro, c'est d'insuffler en tout cas l'idée à tous les entrepreneurs qui nous entendent, c'est qu'ils peuvent avoir des super idées cadeaux qui ont à la fois un impact social, comme je viens de le dire, un impact écologique et un impact économique. Et donc, on a tout un catalogue de goodies qu'ils peuvent mobiliser et ils peuvent faire des cadeaux à leurs collaborateurs, ils peuvent faire des cadeaux à leurs clients. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'offre qu'on peut apporter d'avoir une image en fait d'impact sur le territoire. Donc on peut très bien co-construire avec eux ceci.
Alors quelques
rendez-vous
alors que vous accueillez dans les semaines qui viennent.
Oui, alors là je ne les ai pas sous les yeux, mais si vous allez sur lesnouvellesgrisettes.com, vous avez tout l'agenda. Il va y avoir toutes les dates d'ateliers pour que les particuliers puissent réaliser un atelier de couture avec leur propre projet. Vous avez également des ateliers créateurs, c'est-à-dire donc des porteurs de projets de création textile qui ont besoin de s'installer en tant qu'entreprise, donc toutes les questions clés en tant qu'entreprise qui sont traitées. Donc là, on accompagne la démarche d'entreprise.
Voilà. Très bien, alors on met ça, les points de suspension là-dessus. Alors, toute dernière question, je pense, Fanny Lignière. Quand est-ce que je pourrais moi-même aller Nouvelle Grisette, non pas pour choisir un cadeau pour ma brune, mais pour moi-même, les hommes.
Ah, les hommes. Mais vous êtes le bienvenu parce qu'on n'est pas du tout sectaire.
Est-ce qu'il y a des vêtements pour
mode,
hommes ?
Mais la mode ne concerne pas que les femmes. Et donc, bien sûr que vous êtes le bienvenu. Vous pouvez trouver des tas de produits qui vous concernent. Il y a des tas de choses que vous pouvez trouver en tant que consommateur, mais bien sûr.
Très bien, merci Fanny Lignière.
Avec grand plaisir.
Et
merci
bon
vent
aux Nouvelles Grisettes.
Merci bien.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiez pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.